Radio Kapi. Le journal Noéla Luzitu Kabambi à la présentation.
Trois personnes tuées par des ADF le lundi dans le village de Luna Samboko, à la limite avec le territoire de Beni au Nord-Kivu, et ce ne sont pas les seules victimes de ces rebelles. L'ONG, la Convention pour le respect des droits de l'homme, CRNDH, parle aussi des dizaines de civils tués dans différentes attaques menées par ces ADF dans le territoire d'Irumu depuis le début de cette année. Un dialogue national pour résoudre la crise que traverse le pays. L'UDPS s'oppose à cette idée émise par les églises catholiques et protestantes. Dans une déclaration hier à Kinshasa, le parti au pouvoir réaffirme son soutien au processus de Luanda et de Nairobi comme seul cadre légitime pour résoudre le conflit dans l'est de la RDC. Le professeur Moïse Kaindo, analyste politique congolais, est l'invité de Radio Okapi. Il va réagir à la déclaration finale du sommet conjoint SADC-EAC, sommet tenu le week-end dernier à Dar es Salaam en Tanzanie. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal. En Ituri, trois personnes ont été tuées par les ADF le lundi dans le village de Luna Samboko, à la limite avec le territoire de Beni au Nord-Kivu. D'après l'ONG, la Convention pour le respect des droits de l'homme, CRDH, des dizaines de civils ont été tués aussi dans les différentes attaques menées par ces rebelles dans plusieurs villages du territoire d'Irumu depuis le mois de janvier dernier. Cette organisation de défense des droits de l'homme appelle les forces conjointes FRDC-UPDF présentes dans la région à organiser des opérations de traque de ces rebelles. Sadiq Aboubakar.
Cette nouvelle attaque s'ajoute à plusieurs autres attaques meurtrières perpétrées par les rebelles des ADF depuis le 6 janvier dernier dans le territoire d'Irumu, principalement le long de la route nationale numéro 4. Après plusieurs mois d'accalmie, les ADF ont à nouveau attaqué les localités de Ndimo, Idou et Bwanasura. La Convention pour le respect des droits de l'homme, CRDH, affirme que d'autres incursions ont été menées dans des villages situés à une dizaine de kilomètres à l'ouest de la route nationale numéro 4. D'après des rescapés cités par la CRDH, plusieurs autres personnes ont probablement été tuées dans ces villages, malheureusement inaccessibles à cause de la présence de l'ennemi. Christophe Mounyanderou, le coordonnateur territorial de la CRDH, appelle les forces conjointes FRDC-UPDF, qui sont pourtant présentes en Ndimo, à organiser des opérations de traque de ces rebelles. L'ancien député national du territoire d'Irumu, Jackson Aoussé, ajoute que plusieurs personnes ont également été enlevées par ces rebelles. Nous n'avons pas pu joindre le porte-parole des forces conjointes FRDC-UPDF pour sa réaction. Bounia, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Je vous rappelle qu'au moins 52 personnes ont été tuées, 8 autres blessées et des dizaines de maisons incendiées. Bilan encore provisoire d'une nouvelle attaque dans la nuit de lundi à hier mardi de la milice Codeco dans les localités de Laoudjo, Lindou et Lodja dans le groupement Djaïba. Selon des sources concordantes, le site des déplacés situé proche du lieu du drame a été épargné grâce à la présence des casques bleus de la MONUSCO et des FRDC. Les Ituriens doivent tirer les leçons des conséquences de la guerre interethnique de 2002 pour éviter de soutenir les combattants du M23 soutenus par le Rwanda dans la guerre d'agression de la RDC. Ces propos sont du coordonnateur de l'Organisation des ambassadeurs de bonne volonté au cours d'une conférence débat tenue samedi sur l'éveil patriotique des jeunes dans le territoire de Mahagi. Selon Sylvain Agenorwok, le but de cette démarche est de conscientiser les jeunes à cultiver l'amour de la patrie, leur rappeler leurs devoirs vis-à-vis de la nation. Il appelle les fils et filles de l'Ituri qui soutiennent le 1-23 dans ses visées déstabilisatrices du pays en général et de l'Itour en particulier à cesser cette pratique qui risque de ramener la province en arrière. Il est joint au téléphone par Ezekiel Mouzalia.
Comme vous le savez, de la rébellion du M23, qui malheureusement bénéficie aussi de l'intégration de certains fils ituriens. Ça gêne et ça doit alerter. N'oubliez pas que l'Ituri a déjà connu vers les années 2000-2002 la tragédie de la guerre et les conséquences sont là. Donc il ne faut pas que rapidement l'Iturien oublie cela. Il faut rappeler l'histoire récente de l'Ituri et pouvoir se réorganiser autour des enjeux politiques républicains. Donc il faut tirer les conséquences néfastes de la participation de l'Ituri dans les différentes rébellions dans ces pays et voir autrement. Nous, attaque et ambassadeurs de bonne volonté, notre souci c'est de pouvoir patriotiser davantage les Congolais de ces coins, afin que ces Congolais comprennent que rien ne sert d'agresser son propre pays, que l'heure n'est plus à la pratique violente.
Au nord Kivu, plus de 20 familles des militaires sont bloquées depuis au moins 2 semaines à l'aéroport de Beni-Mavivi. Ces femmes, pour la plupart veuves, et leurs enfants, venus de Goma, passent la nuit à la Belle Étoile. Elles espèrent chaque jour être embarquées dans des avions militaires pour rejoindre leur milieu d'origine. Lundi, quelques épouses des militaires blessés ont lancé un cri d'alarme en direction des autorités pour faciliter leur déplacement. Sylvie Loutetea, leur porte-parole, s'exprime au micro d'André Kitenge.
Je suis arrivée ici à Mavivi pour voyager. Nous venons de Goma. Nos maris sont des blessés de guerre et d'autres parmi nous sont devenus des veuves. Ce qui nous fait attendre ici, c'est l'avion. Les avions militaires qui atterrissent ne transportent que certains biens, mais nous autres veuves et épouses des blessés passons nuit à la Belle Étoile, sans abri, exposés à des intempéries. C'est pourquoi nous demandons aux autorités de nous aider avec un moyen de déplacement par avion pour que nous retournions dans nos milieux d'origine. Nous avons des enfants, d'autres parmi nous sont enceintes. Aux autorités, nous sollicitons les voyages par avion pour que nous rentrions chez nous. Nous sommes nombreuses à des destinations différentes. Parmi nous qui sommes ici, il y a celle de Lubumbashi, Kinshasa, Kisangani et d'autres destinations.
Toujours au nord Kivu, des milliers d'agents et cadres de l'administration publique sont toujours coincés dans la ville de Goma, alors que le gouverneur militaire du nord Kivu a demandé aux institutions provinciales d'être provisoirement délocalisées dans la ville de Beni. Les membres de l'intersyndicale des travailleurs du nord Kivu parlent, eux, d'un manque de moyens et des mesures d'accompagnement de cette disposition. Bernard Danyangi.
Seuls certains cadres du gouvernement provincial et quelques agents des divisions sont déjà arrivés à Beni, alors qu'ils se comptent par milliers les agents et cadres de l'administration publique qui sont bloqués à Goma. Un membre de l'intersyndicale des travailleurs de l'État qui a préféré s'exprimer sous anonymat évoque le manque de moyens pour rejoindre Beni. Celui-ci estime que cette décision est plus politique.
C'est une mesure peut-être beaucoup plus politique que sociale, parce que délocaliser les agents, il faudra donner les moyens, mais surtout la structure d'accueil. Où est-ce que les agents seront logés à Beni avec leurs dépendants? D'abord, il y a les arriérés de salaire. Nous ne sommes pas payés depuis quelques mois. Et puis, même si on peut envoyer l'argent, aujourd'hui, les banques sont fermées.
Signé le 1er février et rendu public le 7 février dernier, cette note de service demande aux institutions publiques et leurs partenaires de se délocaliser à Beni, devenu le chef-lieu provisoire de la province après l'occupation de Goma par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Le nouveau gouverneur militaire, le général-major Somo Evariste Kakule, s'est lui-même installé dans la ville de Beni après sa prise de fonction le 31 janvier 2025.
L'Union pour la démocratie et le progrès social s'oppose au dialogue initié par les églises catholiques et protestantes. UDPS Tshisekedi dénonce et rejette catégoriquement cette initiative de la CENCO-ECC visant à organiser un dialogue national pour résoudre la crise que traverse le pays. Dans une déclaration politique publiée hier mardi à Kinshasa et signée par son président intérimaire Augustin Kabuya, le parti au pouvoir réaffirme son soutien au processus de Luanda et de Nairobi comme seul cadre légitime pour résoudre le conflit en cours. L'UDPS souligne son soutien au processus de Luanda pour une résolution diplomatique des tensions avec le Rwanda et encourage la poursuite du processus de Nairobi afin d'engager les discussions avec les groupes armés congolais. Le parti au pouvoir appelle également le Conseil de sécurité des Nations Unies à prendre des sanctions appropriées contre le président Paul Kagame et d'autres dirigeants rwandais impliqués dans la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. D'autres détails avec vous, grâce à Mzati.
Dans sa déclaration, l'UDPS Tshisekedi rappelle que le M23 AFC, en tant que groupe armé, peut être intégré au processus de Nairobi, à l'instar d'autres groupes armés congolais, mais qu'il ne saurait y avoir des négociations directes entre le gouvernement et cette rébellion soutenue par le Rwanda. Tout en prônant la cohésion nationale, le parti au pouvoir rejette toute initiative visant à organiser un dialogue politique en dehors des cadres institutionnels existants. Ces partis politiques dénoncent par ailleurs l'attitude de certains acteurs religieux qui l'accusent d'adopter une posture hostile aux institutions de la République. Insistant sur le caractère laïque de l'État congolais, l'UDPS Tshisekedi estime que l'Église ne devrait pas s'immiscer dans les initiatives politiques qui relèvent des prérogatives des autorités légalement établies. Enfin, le parti présidentiel appelle les responsables des différentes confessions religieuses en RDC à prêcher des messages de paix et de cohésion nationale dans leurs homélies, tout en respectant les institutions du pays. Convaincu de l'issue favorable de la situation actuelle, l'UDPS réaffirme sa confiance à la capacité de la RDC à préserver son intégrité territoriale et à triompher de cette guerre, peut-on lire dans la déclaration.
De son côté, le Forum des intellectuels congolais de l'étranger, FIS, appelle le gouvernement congolais à prendre des sanctions économiques, consulaires et culturelles contre certains pays qui soutiennent le Rwanda. Dans une tribune intitulée « La diplomatie congolaise est-elle au bout du rouleau ?», le FIS parle par exemple de la suspension des vols de Kenya Airways, Air France et SN Bruxelles. En ce qui concerne les sanctions culturelles, le FIS propose que la RDC quitte la francophonie. L'objectif, selon le président de cette organisation, et de permettre à la RDC de continuer à faire entendre sa voix sur le plan diplomatique. On écoute professeur Joël Ngoï Nchiso, joint par Alain Irung.
Sur le plan économique, la diaspora congolaise à travers FIS propose par exemple la suspension des vols de Air France, de Bruxelles Airlines et de Kenya Airways, dont leurs dirigeants ne condamnent pas ouvertement le Rwanda ou ne prennent pas de sanctions telles que demandées par notre pays. Ce genre de sanctions, nous connaissons, ont porté beaucoup de fruits positifs à l'époque du maréchal Mobutu, qui ne s'empêchait pas de suspendre, par exemple, les vols de la Sabena sur Kinshasa. Toujours sur le plan économique, nous proposons des sanctions qui sont en direction de compagnies américaines. Par exemple, nous appelons le gouvernement congolais et la population congolaise ainsi que la diaspora à boycotter les produits ou la gamme Apro. Sur le plan consulaire, une sanction qui s'est prouvée être efficace dans le passé était la fermeture de la maison Schengen.
Journée internationale de l'épilepsie célébrée le 10 février de chaque année ici à Kinshasa, Congo Medical Center organise du 21 au 28 février une campagne de consultation neurologique avec médicaments gratuits. Selon Dr Gloire Matuvova, l'épilepsie n'est pas une maladie mystico-religieuse mais une pathologie traitable et curable pour certaines formes. Toujours à Kinshasa, lancement officiel hier mardi du programme environnemental du réseau d'organisation des droits humains et d'éducation chrétienne. Un programme qui permet de lutter contre les effets pervers du réchauffement climatique et de protéger l'environnement, selon le père Rigobert Minani, président du conseil d'administration et coordonnateur régional du réseau ecclésiastique pour le bassin du Congo, ainsi que membre du RODESIC. À cette occasion, Georgette Binti Fataki, coordinatrice du REBAC Junior, a présenté un micro-projet pilote Mbé, entendu par l'Ambabola, c'est-à-dire Brasero, économique et écologique, qui est fabriqué par le jeune formé dans la commune d'Entili pour lutter contre la déforestation et la pollution plastique, tout en favorisant l'autonomisation économique des jeunes des milieux défavorisés. Écoutez à ce sujet, père Rigobert Minani, président du conseil d'administration de RODESIC.
Le programme environnemental que nous venons de lancer, c'est un programme pour jeunes qui consiste à accompagner un groupe de jeunes dans un quartier bien précis de Kinshasa, donc en Djili, quartier 4 et Kimbanseke, pour la fabrication de ce que nous appelons de mbabula écologique et économique. Écologique parce que ça aide à réduire la déforestation par l'utilisation réduite de la braise. Économique parce que ça permet aux jeunes d'avoir de l'emploi en vendant les produits qu'ils produisent. Et donc c'est ça un tout petit peu notre objectif, et ça l'objectif un peu de la présentation de l'initiative d'aujourd'hui. Et pour nous, c'est très important de faire la promotion des foyers améliorés, parce qu'il répond à un certain nombre de besoins, dont entre autres les questions environnementales, mais aussi, surtout, les questions de santé. Les gens ne se rendent pas compte, souvent, que quand on fait la cuisine dans un environnement sans beaucoup d'aération, où on laisse la fumée avoir accès aux enfants, c'est toxique, c'est du poison pour les enfants. Et donc nous espérons qu'en réduisant cela, nous faisons un travail aussi de santé publique. L'ambition, c'est que c'est de partir avec des structures structurées, comme on a fait. Donc nous avons l'atelier se trouve donc au quartier 4 pour le moment. Nous avons eu un appui assez significatif. Et nous allons donc trouver d'autres partenaires qui sont prêts à pouvoir accueillir les groupes de jeunes pour qu'ils forment les gens, à savoir les autres jeunes, dans la fabrication, mais aussi créer un réseau de distribution avec d'autres acteurs.
Dans le centre du pays, suspension depuis les débuts du mois de février du trafic routier sur la route nationale numéro 1, axe Kamina-Mwene-Ditou dans la province de Lomami. À la base, des travaux de remplacement du pont Baïlé de Loubilangi 2 qui relie les provinces du Haut-Lomami et de Lomami, non loin de la localité de Lusuku. D'après le directeur provincial de l'Office des routes Lomami, les travaux vont durer près de 28 jours. Ingénieur Bravo Ngoy demande aux usagers de la route de faire confiance à son entreprise. Il a été joint au téléphone par Esther Ndalafina.
Nous sommes en train de monter les ponts, enlever l'ancien pont et lancer maintenant le nouveau pont. Mais dès qu'on place le nouveau pont, on fait maintenant les travaux de bétonnage des accès du pont. C'est ces bétons-là qui peuvent prendre 21 à 28 jours pour l'étircissement. Avant là-bas, il y avait un pont belé, double renforcé. Maintenant, nous les remplaçons par un pont matière double simple, une capacité de 45 tonnes. Le pont est à une aire de 40 mètres. Nous disons aux usagers de la RN1, entre de Mwene-Ditou, vers Kamina, vers Lubumbashi, et de garder leur mal en patience. L'office de route est en train de travailler jour et nuit pour que le trafic soit rétabli dans le meilleur délai. Nous nous y mettons qu'ils puissent prendre leur mal en patience. D'ici 7 à 10 jours, le pont peut déjà être placé sur place. On fait les travaux de bétonnage et dès que le béton fait prise, on libère le passage.
L'invité.
Situation sécuritaire au Nord Kivu. Le professeur Muhesi Kaindo, analyste politique congolais, estime que le cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, mais aussi la reprise de la fusion des processus de Nairobi et de Luanda, sont des mesures salutaires qui vont provisoirement rassurer les populations par rapport à la menace de l'avancée des rebelles. Il réagit ainsi à la déclaration finale du sommet conjoint EAC-SADC qui s'est tenu le 8 février à Dar es Salaam. Professeur Muhesi Kaindo est l'invité de ce journal. Il s'entretient avec Sifa Maguru.
Professeur Muhesi, bonjour. Le sommet conjoint de l'EAC-SADC a réuni plusieurs chefs d'État pour parler de la crise sécuritaire à l'est de la RDC. Des recommandations ont été faites, notamment l'arrêt immédiat des hostilités. Quelle est votre analyse sur cette recommandation?
Bonjour Madame Sifa. Cessez-le-feu était une des grandes attentes d'une grande partie de la communauté internationale, parce que si nous avons bien suivi les débats au niveau du Conseil de sécurité, mais aussi dans les autres arcanes où on a discuté de la paix, à l'est de la RDC, nombreuses sont les organisations qui ont demandé à ce qu'il y ait un cessez-le-feu immédiat. Mais le problème par rapport au cessez-le-feu, il peut provisoirement rassurer les populations qui vivent dans les zones où il y a encore des affrontements, ou des zones qui sont menacées par, la progression de la rébellion d'M23. Mais, comme je l'ai dit, le problème se situe au niveau du respect de ce cessez-le-feu-là. Parce que, comme vous le savez, il n'est pas le premier à avoir été décrété. Mais à chaque fois, après justement l'annonce d'un cessez-le-feu, on a constaté que les violences ou les armes ne se sont pas tues. Et donc, c'est la plus grande problématique liée, n'est-ce pas, à ce cessez-le-feu qui a été une des recommandations issues du sommet des chefs d'État qui se sont réunis à Dar es Salaam. C'est vrai, dans la déclaration, il a été dit qu'il y aurait justement de chefs d'état-major, je crois, qui devraient se réunir pour essayer d'analyser les modalités. Mais dans un contexte où les belligérants ont leur agenda, ont leur planification, il n'est pas exclu qu'en voit que ces mécanismes se réunissent, qu'on assiste, que les lignes sur le front militaire bougent des côtés comme dans un autre.
Cette rencontre des chefs d'État à Dar es Salaam a demandé de fusionner les processus de Luanda et de Nairobi. Quelle lecture faites-vous sur cette fusion?
Quant à la question de la fusion de deux processus, je crois que c'est une recommandation qui, à mon avis, vaut son pesant d'or. La question des discussions avec les groupes armés et nationaux était justement relié à un second plan de discussion. Et il n'était pas impossible qu'il y ait justement divergence, qu'il n'y ait pas rapprochement. À chaque fois qu'on a essayé de conclure, je m'avais pour preuve la rencontre qui était justement raté au mois de décembre, mais aussi les autres rencontres qui ont eu lieu à Luanda. Il était question pour justement le Rwanda de faire mention aux éventuelles discussions qui devaient concerner aussi les groupes armés nationaux, et notamment pour les Rwandais, ils citaient expressément les R23. Et donc, le fait de fusionner, je crois, ça peut rendre la tâche un peu plus facile.
Pour rafraîchir la mémoire de nos auditeurs, pouvez-vous nous rappeler les grandes lignes de l'accord cadre d'Addis Abeba? Pourquoi, selon vous, le sommet d'hier l'a désigné comme instrument crucial qui peut servir de point de départ ou de support pour la résolution des conflits qui ont fait couler le sang dans la région?
L'accord cadre d'Addis Abeba, c'est une initiative en fait de paix qui visait en fait le retour de la paix dans la sous-région des Grands Lacs et de manière particulière à l'est de la République démocratique du Congo. Et c'est pour ça justement que, à l'initiative de la communauté internationale, 11 pays s'étaient réunis avec justement sous l'égide de l'Union africaine, des Nations unies également, pour essayer justement d'amener ces pays à mettre sur pied un cadre qui permettrait justement la résolution ou la prise en charge des différents problèmes qui étaient considérés comme étant à la base de la conflictualité récurrente.
Merci beaucoup, professeur Mouhessi.